France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette première entrée en matière de solutions locales dans le département de l'Isère qui va nous servir de fil rouge avec le jeu des 1000 euros, voici une invention qui dépasse d'emblée le seul champ de ce territoire avec la jeune société Vrac Attitude qui conçoit des silos en inox de distribution de produits en vrac. Encore un pas dans la réduction de l'usage de contenants en plastique. Nous appellerons ensuite Vincent, cofondateur de l'entreprise Fermes Envie, un nouvel outil d'aide à l'installation dans des fermes collaboratives en agroécologie.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Jérémy Casalbou, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
On vous rejoint du côté de Mélan pour votre invention et surtout la création de votre entreprise. Encore une de plus, bienvenue, qui s'appelle Vrac Attitude. Alors, avant de parler de Vrac Attitude, vous étiez soucieux effectivement de solutions pour le vrac, mais vous aviez déjà en tête d'ouvrir une épicerie en vrac.
C'est bien ça. En fait, à la base, je suis ingénieur dans les systèmes de péage pour les autoroutes.
Oui.
Et j'avais vraiment l'idée de pouvoir faire ma part, ma contribution pour la planète. Donc j'avais ce projet d'ouvrir une épicerie bio et en vrac sur ma commune.
Oui.
Et puis donc dans cette logique de vouloir vraiment être complètement cohérent sur la ligne écologique, je trouvais que les silos en plastique présentaient pas mal de gros problèmes. Et donc mon idée c'était de faire ce développement de silos qu'on appelle aussi des distributeurs de produits en vrac, hein,
oui.
Et voilà, qui présentent des innovations assez importantes.
Oui. Bah oui, alors surtout c'est quand même inquiétant ce que vous dites, Jérémy, c'est que ces silos ou ces distributeurs en plastique peuvent altérer la qualité du produit, surtout quand il est présenté comme produit d'origine biologique.
Ce qui pose problème, en fait, c'est qu'il y a des migrations de microplastiques vers les aliments, et c'est particulièrement le cas pour les produits bio. Donc là, en fait, il y a une étude qui montre qu'on ingère en moyenne l'équivalent d'une carte de crédit en microplastique par semaine. Et donc, je pense qu'il y a vraiment peut-être des problèmes de santé publique même avec ça. Et donc, c'est pour ça que le choix de l'inox, donc l'inox alimentaire, hormis l'esthétisme que ça apporte, ça aussi présente l'avantage donc d'être complètement inerte pour l'animal, même à des températures élevées. Voilà.
Et alors, vous avez trouvé quelle solution pour la poignée? Parce qu'en période de Covid, en plus, tout le monde touche la poignée, même si on met du gel hydroalcoolique à l'entrée, tout le monde utilise ce principe.
C'est ça. Ce silo, donc, d'abord, est composé de deux modules. Un module donc vraiment de stockage et un module de distribution. Ce module donc de distribution est sans poignée. Il permet donc de se servir vraiment en tenant que le contenant. Puis ça permet aussi, en ces temps de pandémie, d'avoir plus d'hygiène.
Alors, le silo inox vert a une contenance de 10 litres, mais on peut multiplier par deux, c'est-à-dire ils sont cumulables.
Alors c'est ça, c'est aussi une des innovations, on peut les empiler l'un sur l'autre, donc du coup on peut venir en ajouter un sur l'autre, et voilà, on double la contenance, on passe de 10 litres à 20 litres.
Mmh. Et alors Jérémy, c'est quand même amusant, parce que là on est dans une très belle perspective, sauf qu'on en est encore à un stade artisanal, et vous assemblez les silos chez vous dans votre garage?
C'est ça, pour l'instant, je les assemble dans mon garage, donc je passe travailler en local avec un petit fournisseur, un petit taulier qui vient les découper et les plier, et puis ensuite je les assemble et puis je les expédie à mes clients.
Quel type de clients vous allez pouvoir toucher?
Alors, essentiellement, ça va être les épiceries vrac en création ou déjà ouvertes, qui veulent renouveler leur matériel.
Mmh.
Et puis, ça va être, j'espère, peut-être les magasins bio qui peuvent être intéressés par cette solution.
Oui. Ah oui, j'ai oublié un détail. Ils peuvent passer au lave-vaisselle, les silos.
Alors c'est exactement ça. En fait, pour moi, le problème du vrac, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment axé sur le client, le consommateur. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur toute la chaîne, du producteur au consommateur. Et c'est pour ça qu'en fait, le silo se veut être transportable. Je m'explique, simplement, on va prendre le silo, on va l'apporter à son fournisseur, à son producteur local, il va le remplir, et puis ensuite, on aura juste simplement besoin de le mettre en volume. Du coup, on évite cet emballage aussi en amont avec le producteur.
Ouais, ouais.
Et puis, voilà, ça permet aussi une meilleure hygiène, puisqu'il n'y a pas de transfert d'un contenant à un autre. On est aussi sur ces avantages d'une meilleure traçabilité. Ouais. Donc, dans la chaîne, du coup, on vient à un moment laver le silo. Donc puisqu'on est en inox, on peut dépasser des températures au-delà de 100 degrés, ce qui n'est pas du tout le cas avec ces silos en plastique.
On se rappelle pour la première centaine d'employés.
volontiers.
Non, mais ça se présente bien, moi, je trouve. Vracattitude.com,
oui.
L'adresse internet de cette belle invention et société créée par Jérémy. Merci, Jérémy.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
La lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique font beaucoup d'adeptes actifs dans le département de l'Isère. En premier lieu, Grésy 21, en référence au Grésy-Vaudan où habitent les correspondants qui nous ont écrit. Cette centrale villageoise produit l'électricité équivalente de 400 foyers par an, hors chauffage, et aspire à atteindre les 600 foyers à la fin de cette année. Ce collectif a ouvert un groupement d'achat de granulés bois d'origine locale, ce qui a permis aussi une première commande de 202 participants qui ont acheté 516 tonnes de granulés en sac ou en vrac. À noter, comme le fait Eric dans son courrier, que des fabricants français importent fréquemment les granulés de Pologne ou d'Espagne quand ils n'importent pas des troncs d'arbres, écrit-il, arrivant par bateau et broyés ensuite dans l'ouest de la France. La mobilisation concerne aussi les jeunes. 1000 collégiens et lycéens ont été contactés en 2021 et l'opération est renouvelée cette année. Enfin, Grésy 21 organise des soirées thermographiques pour détecter les ponts thermiques des logements, c'est-à-dire une centaine par an qui sont suivis, et l'association met au point actuellement une calculatrice qui permettra de calculer la consommation énergétique d'un logement en quelques minutes. Des réunions de mobilisation ont déjà repris depuis ce début d'année. Il y a une levée de fonds également qui a été lancée dans le cadre du projet Solaire 2022. L'adresse c'est Grésy 21, centrale villageoise au pluriel, grésy21centralevillageoise.com. Vincent Krause, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur avec Astrid, Marc et Simon, que je salue. Il y a peu de temps d'ailleurs, de Fermes en Vie. C'est une société de l'économie sociale et solidaire qui va faciliter l'installation de fermes collaboratives en agroécologie. On va donner quelques explications, mais on part du chiffre, enfin plutôt du nombre. 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Vous confirmez, Vincent ?
Oui, tout à fait. C'est les chiffres qu'on a. On fait face à des départs à la retraite importants chez les agriculteurs, puisque 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc, il faut travailler pour que ces fermes puissent être reprises par des personnes qui vont s'installer.
Qui vous met au courant des départs ? Vous avez un suivi avec des partenaires ?
On essaie de travailler avec de nombreux partenaires sur le terrain, que ce soit les acteurs traditionnels de l'écosystème, les chambres d'agriculture, les associations paysannes. On travaille également avec les SAFER. Et donc, on a de plus en plus de cédants. Et on a aussi des porteurs de projets qui ont trouver leur ferme et qui viennent nous contacter parce qu'ils souhaitent reprendre telle ou telle ferme.
Donc, avec les chambres d'agriculture, entre autres, vous pouvez identifier les fermes qui vont passer en transition, en transmission. Ensuite, il faut trouver les candidats. Et quel est le profil type des candidats que vous retenez ?
Alors, les candidats, nous, ce qui est très important pour nous, c'est que ce soit des candidats qui soient formés, qui aient une expérience dans l'agriculture. Donc, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des profils de porteurs de projets qui ont déjà travaillé pendant quelques années en tant qu'ouvrier agricole dans différentes exploitations pour apprendre le métier et se former. Et donc, c'est très souvent donc des personnes qui ont eu entre 2, 3 et 5, 6 ans d'expérience. Et qui souhaitent s'installer à leur propre compte et qui souvent sont des porteurs de projets qui n'héritent pas des terres de leurs parents, donc qui sont plutôt des porteurs de projets qu'on appelle hors cadre familiaux.
Alors, vous avez créé une foncière avec l'acronyme de la fève, hein, pour Fermes en Vie, la ferme, la fève, la vieille légumineuse qui représente bien votre démarche. Vous faites appel à des investisseurs, qui sont-ils ?
Ce sont des particuliers, donc des citoyens qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Donc on a à la fois des citoyens qui sont des gens qui ont un petit peu d'épargne et qui sont prêts à investir quelques centaines d'euros. Et ça va jusqu'à des citoyens qui mettent des montants très importants de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on a un peu tout type de profil, mais c'est plutôt des gens qui souhaitent donc donner du sens à leur épargne parce qu'ils en ont, bah, ils ont besoin de savoir à quoi concrètement leur épargne va servir. Et ils souhaitent donner un sens soit environnemental, soit social, soit un peu les deux à leur épargne. Et puis c'est des gens aussi qui se disent que un investissement dans du foncier agricole leur permet également de diversifier un petit peu leur patrimoine.
On pense évidemment à Terre de Liens. Quelle est la différence entre Fermes en Vie et Terre de Liens ?
Alors la principale différence, c'est qu'elle est plutôt côté porteur de projet, c'est-à-dire que pour nous, on a discuté avec beaucoup de porteurs de projets qui souhaitaient s'installer, des agriculteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un fort besoin d'accès à la propriété et très souvent, les porteurs de projets qui s'installent et qui n'ont pas la capacité d'acquérir leurs terres au démarrage souhaitent en avoir la possibilité à terme. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner une option d'achat sur ces terres qui sont louées dans un premier temps à ces porteurs de projets pour qu'ils puissent en devenir propriétaires à terme. Et c'est la principale différence qu'on a avec Terre de Liens aujourd'hui.
Ouais. Et vous donnez cette opportunité d'achat au bout de 7 ans d'exploitation.
Oui, alors j'avoue que c'est un petit peu arbitraire, c'est 7 ans. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il faut quand même souvent quelques années pour que l'exploitation soit rentable et viable. Et 7 ans, ça permet... si tout se passe bien, d'avoir mis un petit peu d'argent de côté et puis d'avoir des résultats qui permettent plus facilement d'aller trouver un prêt auprès d'une banque pour pouvoir racheter le foncier sur lequel les porteurs de projets sont actifs.
Oui. Alors si je cherche une ferme à reprendre, je vais sur fève.co et là j'ai déjà un répertoire de domaines.
Alors oui, tout à fait, on fait un petit peu de prospection et comme je le disais tout à l'heure, on a quelques cédants qui viennent nous voir avec des fermes qu'ils souhaiteraient céder. Et donc on fait régulièrement des appels à candidature sur ces fermes-là pour que des porteurs de projets puissent proposer leur projet et proposer de venir s'installer sur ces fermes-là. Et la deuxième chose qu'on fait pour également lancer ces projets, c'est qu'on a des porteurs de projets qui viennent aussi et qui peuvent venir nous proposer des projets en ayant déjà identifié les fermes sur lesquelles ils veulent s'installer mais sur lesquelles ils ont besoin de financement.
Très bien. Fève.co, je répète pour l'adresse. Bravo pour l'initiative et j'espère que vous serez suivi parce que vous participez à la fois à la transition agroécologique et en même temps à la transmission de ces fermes qui, pour l'instant, sont nombreuses à disparaître, comme on le disait. Merci Vincent.
Merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée.
Je voudrais attirer votre attention sur un festival qui est le Festival international du film sur les handicaps, bien original, et vous allez comprendre pourquoi, c'est la 5e année, 70 films en compétition, des longs-métrages, des courts-métrages, fiction ou documentaire, tout se passe à partir de ce vendredi jusqu'au 9 février à Lyon, deux jurys, un jury long-métrage où figure Pascal Arbillot, puis un jury court-métrage, présidé par Jean-Baptiste Richardier, cofondateur d'Handicap International. Et puis ce festival a plusieurs originalités, il a établi des partenariats avec des écoles de cinéma en France, à l'étranger, afin d'inciter les étudiants à travailler sur le thème du handicap invisible. Ça donne aussi une sélection titrée « Fais-moi du cinéma ». Le festival donne une carte blanche, aussi un distributeur, et là une association avec deux films présentés, celui de Laurent Boileau, « J'irai décrocher la lune », et le documentaire de James Erskine, « Billy », consacré à Billy Holiday. Enfin, le festival, parce qu'il se passe beaucoup de choses, une fois terminé, va prendre la route pour des projections et des rencontres avec les scolaires à l'invitation des municipalités. Le site, c'est Festival International du Film sur le Handicap.fr. Enfin, vous tapez ce terme et puis vous allez tomber sur le site.